On va commencer aujourd'hui Mishnahé du chapitre 2. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que notre Mishnah, c'est très rare dans les Mishnayot, c'est une Mishnah qui est en double. Ah. Parce qu'elle est écrite, la même Mishnah, vous la retrouverez dans le traité Ktuvot, dans le chapitre 7, Mishnah 7, 7-7. La même Mishnah, la même, les mêmes mots, tout la même chose. Très très rare dans les Mishnayot, mais bon, c'est comme ça.
Quelle est la signification?
Donc, la signification, c'est qu'elle concerne les deux maserhets. Elle concerne, ça rentre dans le cadre de Ktuva, du mariage, d'accord, des engagements de la Ketuba, et ça rentre aussi dans le cadre de Kiddushin. Bon. Ouais. Donc, Amekadesh et Taïcha, Almenach, En, Alea, Nedarim. Une personne qui va consacrer une femme, à condition, En, Alea, Nedarim, qu'elle n'a pas de vœux. D'accord? Par exemple, vous savez qu'une femme peut prendre des vœux sur elle avant le mariage. Elle peut prendre un vœu à 12 ans, elle dit par exemple, moi de toute ma vie, jamais je mangerai de la viande ou jamais je buirai du vin. D'accord, jamais je vais boire du vin. Donc elle prend un vœu. Ou bien, un autre vœu qui existait aussi à l'époque, c'est qu'il y avait des femmes comme ça que, je sais pas, par exemple, pour être en deuil pour la destruction du Beth Amikdash, qui disaient, moi jamais je mettrai des vêtements de couleur. D'accord, la Gemara a dit qu'il y avait des gens comme ça, qui prenaient, ils faisaient des vœux, ils disaient, jamais je mettrai des vêtements de couleur. Toujours, ou en blanc ou en noir. Bon. Alors lui maintenant, il s'est marié avec une femme. Donc c'était une question qui se posait à l'époque. D'accord ? On posait la question à la femme, on lui dit, est-ce que tu as des nédarim ? Est-ce que tu as des vœux ? Un néder. On dit un néder, vous savez que c'est un néder.
D'accord ?
Donc, une personne qui se marie avec une femme à condition qu'elle n'a pas de néder. Venim tsewala nédarim. Et du coup, il se trouve que, il se marie avec elle et il se trouve qu'elle avait des nédarim, elle avait des vœux. Mais elle lui a caché, elle ne lui a pas dit. D'accord ? Donc est-ce que le mariage a démarré ou le mariage rétroactivement n'a même pas démarré. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Eina mekut deshet, la femme n'est pas fiancée. Pourquoi? Il faut savoir un principe très important que nous explique le Meiri. Meiri explique comme ça. Il dit, on sait très bien ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit que tous les vœux qu'une femme fait après le mariage, le mari peut les faire sauter. On est bien d'accord. Mais tous les vœux que la femme a fait avant le mariage, le mari ne peut pas faire sauter.
Son père pouvait.
Son père pourrait, oui, mais il y a une étape dans laquelle, dès que la femme dépasse les 12 ans, son père ne peut plus.
Exact.
D'accord ? Dès que la femme dépasse 12 ans, son père ne peut plus. Donc par exemple, une femme qui fait un vœu à 18 ans, elle se marie, plus personne ne peut lui faire sauter. La seule personne qui peut lui faire sauter, c'est le chacham. Elle va aller chez un chacham qui va lui faire sauter le neder. Donc c'est déjà plus compliqué.
Il est sautable.
Parce que le chacham doit essayer de trouver une porte de sortie. Dire, bon, vous avez fait neder, mais en vérité, vous pouviez pas, vous voulez pas. Très bien. Mais le mari, il peut faire sauter sans même donner de raison. Je fais sauter parce que je ne veux pas. Le problème ici est quoi, hein, est que ce vœu est un vœu que la femme a pris avant le mariage. Puisque la femme avait déjà pris le vœu avant le mariage. Donc le mari ne peut pas faire sauter ce néder. D'accord ?
Pourquoi on a dit ça ?
Donc, puisque c'est comme ça. La Torah a dit que le mari peut faire sauter un vœu que après le mariage. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que la Torah nous explique que après le mariage, quand la femme a pris un vœu, si le mari n'est pas d'accord, le mari va faire sauter le vœu rétroactivement. C'est-à-dire, il va dire, puisque dès le départ, j'étais pas d'accord de ton vœu, donc ton vœu n'a jamais démarré. C'est pour ça qu'il n'y a même pas besoin d'un chacham. Et il n'y a même pas besoin d'expliquer comme le cas du chacham. Dans le cas du chacham, le chacham doit expliquer pourquoi le vœu marchait jusqu'à présent, mais maintenant on va montrer que bon, t'étais pas capable de le faire, donc on le fait sauter maintenant, pas rétroactivement. Dans le cas du mari, c'est rétroactif. C'est pour ça que le mari n'a même pas besoin de donner de raison pourquoi il fait sauter le néder. Parce que c'est rétroactif, je te dis plus que je n'étais pas d'accord, donc le vœu n'a jamais démarré. C'est comme si tu as signé un contrat, tu as signé un chèque, mais je t'ai jamais donné mon accord.
Mais c'est pas sur
alors,
n'importe quel
qu'est-ce qu'il dit ici? Tous les vœux. Quand maintenant, après, il y a dans le traité Nedarim, on nous expliquera quel vœu marche et quel vœu ne marche pas. Quand il y a des vœux, par exemple, si quelqu'un dit « je fais le vœu que jamais je ferai le Shabbat », c'est un vœu qui ne marche pas.
Non, mais c'est pas ça, le mari peut enlever tous les vœux.
Tous les vœux. Donc, si...
Les vœux après mariage.
Les vœux après mariage.
Ouais.
Donc si maintenant une personne se marie, si une personne va consacrer une femme à condition qu'elle n'a pas de vœux, il se trouve qu'elle a des vœux, dans ce cas-là, puisque le mari ne peut pas faire sauter ses vœux, c'est considéré que, comme la Gemara le dit, ça s'appelle Kidouché Taout. Ça s'appelle que je me suis fiancé par erreur. C'est-à-dire, on m'a trompé. Il y a eu une fausse information ici. D'accord ? Dans ce cas-là, le mariage n'a même pas démarré.
Jacob, il pouvait très bien refuser Léa.
Oui, pouvait.
Au lendemain.
Pouvait.
Ça le dérangeait pas.
Vous avez raison.
Ses vœux, ça la dérange pas.
Non, là on parle de quelqu'un qui s'est marié à condition qu'elle n'a pas de vœux. D'accord ? Il a donné une condition. Si maintenant il a rien dit, ils sont mariés, qu'après le mariage, je lui dis écoute, je t'ai une confidence, j'ai un éder. Bon, là dans ce cas-là, elle peut rien dire.
Assieds-toi.
D'accord ? Donc enam mekudeshet. Mais on a le cas de monsieur Benichou, Knasastam, s'il s'est marié par défaut. D'accord ? Il s'est marié avec la femme sans donner de conditions. C'est-à-dire, ni on a parlé de huit neder, ni on a parlé de paneder. Venim tseu ala nedarim, et il se trouve qu'elle avait des vœux. D'accord ? Mais quel type de vœux elle avait ? Des vœux que le mari, qui pourrait déranger le mari. Attention, c'est vrai que le mari explique. Ça veut dire quoi ? C'est quoi des vœux qui pourraient déranger le mari ? Par exemple, elle a dit, je veux pas manger de viande. Je veux pas boire de vin. D'accord ? Je veux pas boire de vin. Donc elle ne supporte pas de voir le vin, ni de voir le vin, ni de boire le vin. Et ou bien elle a dit, je veux pas m'habiller, un des troisièmes vœux qu'on a dit, je veux pas m'habiller avec des vêtements en couleur. Ces trois choses-là, c'est des choses qui dérangent le mari. D'accord ? Le mari, il veut que sa femme soit belle, il veut que sa femme lui prépare un plat de viande, il veut qu'elle lui amène du vin, il veut tout ça. D'accord ? Il lui dit, c'est bien beau ton éder, mais moi, il fallait me prévenir avant le mariage. Dans tous ces trois cas-là qu'on a dit, si le mari s'est marié avec la femme par défaut, il n'a pas donné de condition, mais il s'avère qu'elle avait ces vœux-là, et que le mari dit, écoute, c'est vrai que j'ai pas fait la condition, mais tu me l'as pas dit. Il fallait me le dire avant le mariage. Ça me dérange. C'est quoi le dîme dans ce cas-là ? C'est chez le Biktouva. Dans ce cas-là, il faudra un guet, il faudra un acte de divorce, mais il y aura une exception, c'est qu'un acte de divorce qui ne sera pas accompagné de la ketouba. Vous savez, la ketouba, le don, d'accord, qu'on s'engage, on dit, si Dieu préserve, on va divorcer, on donnera une certaine somme. D'accord ? Là, dans ce cas-là, il faudra un guet, parce que le mari n'a pas dit explicitement avant le mariage que ça le dérangeait, mais d'un autre côté, le mari n'aura pas besoin de payer la ketouba, puisque, quelque part, on va considérer que le mari s'est fait arnaquer. D'accord ? Donc c'est pour ça que, il va rendre, d'accord, sans les frais de... Vous savez, aujourd'hui, quand on rend un objet, vous achetez un objet, vous le rendez, des fois on vous dit, surtout dans les commerçants qui vous vendent en ligne, ils vous disent frais de restockage, d'accord. Ça veut dire que, ils vous disent, par exemple, vous achetez un objet, il vous coûte 20 euros, ils vous disent, si vous nous le rendez, alors d'abord on va vous prendre les frais d'envoi que nous on vous envoyait, bon ça c'est normal, à part ça ils vous prêtent des frais de restockage, je sais pas comment ils appellent ça, d'accord. Ça veut dire, puisqu'on a besoin de remettre ça en stock, alors on va vous prendre encore 3 euros. Bon, là, il n'y a pas de frais de restockage. Ça veut dire, on dit, écoute, hein, tu m'as arnaqué, tu m'as pas dit que tu avais un éder. Donc, le mari divorce sa femme sans rien.
Et la réception et tout ça qu'il a dépensé, les machins, il ne se fait pas dédommager.
Ça non. D'accord. Mais par contre, elle n'aura pas sa ketouba.
Je comprends pas, puisqu'il n'y avait pas de conditions déterminées au mariage. Donc pourquoi après,
bonne question.
On lui donne le droit de pouvoir la divorcer ?
Parce qu'on considère que ça, c'est quelque chose qui dérange le mari. Et que la femme aurait dû le dire au mari avant le mariage.
Mais si le mari ne l'a pas demandé, c'est qu'il la prend comme elle est. Et après, il va découvrir...
Oui, mais attendez, excusez-moi. C'est comme si je vous donnais un exemple.
Ouais.
Un exemple qu'on va amener plus tard.
Sinon, d'accord. C'est les conditions de
quand on se marie avec une femme, exactement. On ne dit pas je me marie avec toi à condition que tu n'es pas malade. Je me marie avec toi, c'est tout. Marie avec la femme et après le mariage, je découvre qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant.
Non, on voit que dans le cas
précédent, attendez, mais qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là ?
Il y a des conditions.
Qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là ? Je découvre qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Maintenant, c'était pas une condition de mariage, mais je m'en doutais pas.
Non, mais moi, ce que je comprends, c'est que le mariage, il peut se faire soit à condition ou soit sans condition.
Sans condition, ouais.
Alors, à condition, ça veut dire, si tu as quelque chose à me déclarer qui n'est pas dans les normes, donc.
Genre, t'as trois jambes.
Tu me le dis avant le mariage, donc ça, c'est les conditions. Maintenant, si on dit rien, ouais, c'est qu'on va l'accepter.
Trois jambes.
Non. Pas ça. C'est que quand j'ai fait une condition, ça veut dire que j'ai montré que ça me dérangeait spécialement. Donc là, dans ce cas-là, le mariage rétroactivement n'a jamais démarré. Puisque c'était ma condition. D'accord ? J'ai signé le contrat, j'ai dit à condition de ça. Donc le mariage n'a jamais démarré.
C'est logique.
Très bien,
si
c'est logique.
Pas de condition,
si j'ai pas fait de condition, mais que la femme m'a caché quelque chose qui me dérange et qui dérange un mari normal. D'accord ? Parce que la femme peut faire un éder, par exemple, qui ne dérange pas le mari. Je sais pas, elle peut faire un éder qui ne dérange pas le mari. Et là, dans ce cas-là, le mari ne peut rien dire. Parce que, bon, elle dit ça ne dérange pas, si vraiment ça dérangeait, il fallait faire la condition avant le mariage. Mais si c'est un éder qu'en standard, ça dérange un mari normal, d'accord ? Là, dans ce cas-là, on considère que le mari peut divorcer sans donner la ketouva.
Bon.
C'est logique, excusez-moi. Guet,
non, moi je...
Donne le guet sans donner la ketouva.
Moi, ça fait partie d'une...
Sans donner sans donner l'argent, quoi.
L'oseille.
Ça fait partie des conditions, enfin, pour moi, je pense.
Bon, je sais pas, enfin, excusez-moi, moi, ici, celle qui est malhonnête, c'est la femme, ici.
Ouais.
Hein, qu'est-ce qu'on pense de M. Benichou ? Elle est malhonnête, la femme. Mais t'as un éder, t'as un vœu, tu sais que ça dérange un mari.
Si l'homme, il a...
Je savais pas que t'avais une sœur siamoise.
Mais l'homme, il a averti avant de se marier. Donc il sait que s'il y a quelque chose, c'est à lui d'intervenir. Maintenant, s'il
n'intervient
pas, c'est une façon de dire, eh ben, je te prends comme tu es, ce que tu vas me dire, je l'accepte.
Du tout, il n'est pas averti.
Bon, moi,
il
c'est ma logique.
D'une certaine façon, elle a caché des choses.
Alors, effectivement, il a raison, M. Daniel, on verra après que si c'est quelque chose que le mari aurait pu être averti, parce que, par exemple, à l'époque, Enfin, voilà. Par exemple, à l'époque, si le mari, il y a un cas qu'on va dire que dans la, qu'on va dire plus loin, et c'est, ça ramène aussi dans la Mishnah Ketuvot. Si un homme se marie avec une femme, et après le mariage, il découvre qu'elle a un défaut. Elle a un défaut dans son corps, mais un défaut qui était invisible. Alors, à l'époque, il y avait l'habitude que quelqu'un qui voulait se marier avec une femme, il envoyait ses sœurs au bain, d'accord, au mikvé. Non, c'est pas mikvé. C'est pas, il y avait les bains douches, d'accord. Il envoyait ses sœurs au bain, pour qu'il dise, bon, vous regardez la femme, vous voyez, est-ce qu'elle a pas de défaut? C'est comme ça à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on lui dit, si elle avait un défaut, t'aurais dû t'en rendre compte. Et si tu t'es pas rendu compte, c'est que ça te dérange pas. Donc là, effectivement, il y a ce que M. Daniel a dit. Mais bon, là, on parle d'un cas standard. C'est un vœu qui peut passer inaperçu.
On parle de vœu, on parle pas de défaut.
Pas de défaut. Donc, c'est chez le Bictouva. Almenat chez Enba Moumine. Bien entendu, hein, tout ça, c'est dans le cas que la femme ne veut pas faire sauter son éder. Elle dit, moi, je m'entête, je ne veux pas faire sauter mon éder, mais si elle veut faire sauter son éder, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on va chez un chacham, on fait sauter, et le mari n'a rien à dire. Almenat chez Enba Moumine.
Et aujourd'hui, ça marche.
Benimsa Enba Moumine. Si.
Ça fonctionne encore.
Bien sûr, 100%, oui. C'est la même chose. Almenat chez Enba Moumine. Si une personne se marie avec une femme, il lui dit, je me marie avec toi, à condition que tu n'as pas de défaut. Elle dit, ouais, dans notre famille, on a eu des mauvaises expériences, voilà, moi je me marie avec toi, à condition que tu n'as pas de défaut. Donc c'est une condition de mariage. Venim Tseouva Moumin. Et il se trouve que la femme avait des défauts. Alors quel défaut? D'accord, on verra après, parce qu'après, hein, un défaut, c'est très vague comme terme, un défaut.
Non, parce moum, que, c'est
oui, un mou, c'est un défaut, je peux dire un sale caractère, c'est un défaut aussi.
Ouais.
Hein? Bon, alors ça, on verra après. Dans les Mishnah d'après, on verra qu'est-ce qui est considéré comme un défaut.
C'est plutôt un défaut physique.
Là. Voilà, c'est plutôt un défaut. Et même défaut physique, on verra. Qu'est-ce qu'il y a plein de défauts physiques? On verra par la suite.
Mais t'es un homme.
Et une âme écoute des fêtes.
Pourquoi tu m'as pas dit?
Hein, Jean-Marie. Hein,
Mendy.
Même chose. Non, une femme. Alors, on parle, est-ce qu'on va voir plus tard qu'une femme, elle peut réfugier son mari?
C'est la même chose.
Même ça existe
la...
aussi.
Non, c'est la même chose. Si ils sont mariés, une des conditions de mariage, par exemple, c'est que le mari n'est pas alcoolique, hein, en Russie, ils sont tous alcooliques, et il se trouve que le mari était alcoolique, le mariage n'a même pas démarré. C'est pas qu'il saute, c'est qu'il n'a même pas démarré. Ouais. C'était une condition. Donc on dit comme ça. Ah, mais Natchen Bamoumin, si il s'est marié avec une femme, à condition qu'elle n'a pas de défaut. On verra, on citera après c'est quoi les défauts. Velim Tseouva Moumin, et il se trouve qu'elle avait des défauts. Et il n'a mes coups d'échec. La femme n'est pas mariée. C'est-à-dire le mariage n'a même pas commencé. Pourquoi? Parce que c'était, elle n'est pas consacrée du tout. Pourquoi? Parce que la condition de mariage n'a pas été accomplie. Kenas Astam. Eh, écoutez bien, monsieur Daniel. Si un mari se marie avec une femme par défaut,
hein,
il n'a pas posé de question. D'accord? Il n'a pas posé de question. Il n'a pas dit est-ce que tu as tel défaut? Est-ce que tu as tel défaut? Est-ce que c'est le défaut? C'est des questions qui se posent pas. D'accord? Et du coup, il se marie et il découvre que. Il y a des défauts qui le dérangent.
Elle est bête, grave.
Ça, il aurait remarqué avant le mariage.
Tu sais, il n'y a que les yeux qui voient. Les yeux voient, le cœur désire. Mais elle était belle.
Si il s'est marié avec elle par défaut et qu'il se trouve qu'elle a des défauts. Et des défauts, comme on verra après, qui dérangent le mari, qui dérangent un mari normal. Tété chez le Bictouva, c'est le même concept qu'on a dit avant. Elle sortira chez le Bictouva, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans Bictouva. Ça veut dire il faudra un guet, il faudra un acte de divorce, mais sans l'argent. D'accord?
Non.
Eh bien. Alors maintenant, la Mishnah va dire quels sont les défauts. On a dit les défauts. Comme j'ai dit, les défauts, c'est très vague comme terme, les défauts. D'accord? Un défaut, voilà, sale caractère, c'est un défaut aussi. Un défaut, c'est un sale caractère, c'est un défaut, ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit la Mishnah? Elle dit comme ça, un principe. Kol amouin aposlim bakoanim, poslim banashim. Tous les défauts qui rendent un Kohen inapte au service, d'accord? Ok, tous les défauts, c'est par exemple, il lui manque un doigt, il lui manque un doigt de pied, tous ces défauts, d'accord? Tous les défauts qui sont cités par rapport au Kohanim. Et donc, ces défauts-là sont cités dans le traité Bechorot, chapitre 7. Donc ça en détail, on dit qu'est-ce qui est considéré un défaut, qu'est-ce qui n'est pas considéré un défaut. Tout défaut qui aurait rendu un Kohen inapte au service, est considéré comme un défaut aussi que pour une femme aurait posé problème. Que si elle a caché ça à son mari et qu'après le mariage il découvre, même si ce n'était pas dans les conditions de mariage, le mari peut divorcer sa femme en donnant le guet, mais sans donner l'argent. D'accord? Ça c'était pour la Mishnah. Hey. On a continué la Mishnah Vav. Amekadesh, Shtenashim et Shavé Pruta. Un homme qui se marie avec deux femmes. Bon, ça c'est plus d'actualité, mais bon. Un homme qui se marie avec deux femmes, Veshavé Fruta, avec la valeur d'une prouta. Une prouta, on a dit, c'était combien, M. Benichou? 15 centimes
d'euros.
Très bien. Donc lui, il marie deux femmes avec 15 centimes.
Il a engagé des gros frais, là.
Hein,
il
a... Très bien. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème qu'on a ici? C'est que...
Deux femmes.
Comme il y a une fois...
C'est déjà un problème.
Il y a une fois un petit enfant qui demande à son père, il lui fait... Papa, c'est quoi la bigamie? Alors, son père, il lui répond, il réfléchit, il répond, il lui dit... C'est un homme qui se marie avec une femme de trop. Le fils, il réfléchit, et il lui dit, papa, c'est quoi la monogamie? Le père, il réfléchit, et il lui dit, c'est la même chose, mon fils. Donc, on dit comme ça. Donc, quoi, Mekadesh, Tenashim, Shavevruta, une personne qui se marie avec deux femmes, mais avec un Shavevruta, normalement, il faut 15 centimes par personne. Minimum.
On l'a... D'accord?
Oui. Il faut un minimum. Mais là, la différence, c'est qu'il y a deux femmes. Alors la question qu'on aurait pu se dire, est-ce que tu vas dire que comme il n'y a que deux femmes, d'abord il n'y en a qu'une qui sera mariée? Hein, c'est comme, je vais chez un commerçant, il y a un produit qui vaut 100 euros. Maintenant, j'en veux deux et je paye que 100 euros. Eh ben, j'en prends qu'un seul. D'accord? Alors est-ce qu'on va penser comme ça aussi? On va dire non, puisque tu as marié les deux d'un coup et qu'il n'y avait pas assez, eh ben, la transaction n'a même pas démarré. Donc, Amekadesh, Chenashim et Shavevruta. Si une personne s'est mariée, a consacré deux femmes et Shavevruta, mais avec la valeur qui suffirait que pour se marier avec une femme. Ou bien, Isha Achad Pachot Meshavevruta. Ou bien, si il s'est marié avec une seule femme, mais qu'il a donné moins qu'une pruta. Donc il a donné 10 centimes d'euros. Écoutez bien pourquoi c'est un cas qui peut être d'actualité. Afalpish Shalar Sivlonot Lekan ou Lekan. Même s'il a envoyé des cadeaux. C'est-à-dire que le mari dit, oui, mais c'est vrai que la bague que je lui donnais, elle valait 5 centimes d'euros. D'accord? Mais j'ai envoyé des cadeaux, je lui ai acheté un collier qui vaut 3000 euros. Mais, c'est quoi le problème? C'est que j'ai pas marié la femme avec le collier. La phrase, quand j'ai dit arrête mes coups d'échelle, je lui dis tu m'es marié, tu m'es consacré bêta base avec cette bague, la bague valait 5 centimes d'euros. Je sais pas, l'or il vaut plus rien, elle vaut 5 centimes d'euros. Même si j'ai envoyé des cadeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eina mes coups d'échelle. Eina mes coups d'échelle, la femme n'est pas fiancée. N'est pas consacrée du tout. Pourquoi? Shemechamat kidushim arishonim shalach. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on nous dit que même si t'as envoyé des cadeaux, mais les cadeaux, c'était pas pour fiancer la femme. Dans ta tête, dans la tête de la personne, quand tu l'envoyais des cadeaux, sa femme est déjà fiancée. Donc les cadeaux, c'était pas avec la kavana de la fiancée. Et puisque le fiançailles dès le départ, quand on a donné la bague, par exemple, elle valait pas une pruta, hein, donc le mariage n'a même pas démarré. Donc la femme n'est pas mariée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là avec les cadeaux, monsieur Bismuth?
Hein?
Vous savez qu'il y a des halakhot pour ça. Il y a des halakhot pour ça que quand le mari découvre après le mariage qu'il s'est fait arnaquer. Enfin, par exemple, il découvre que...
Il peut rentrer en procès, se faire payer, hein, les frais de
une infirmité, ou découvre que sa femme a déjà eu des relations, etc. D'accord, alors qu'elle lui a dit qu'elle était vierge, eh ben, il peut exiger, d'abord, bien entendu, de récupérer ses cadeaux, ça c'est évident. D'accord? Il peut exiger dommages et intérêts, et attendez, qu'est-ce que je dis dans dommages et intérêts? Dommages et intérêts, ça peut vouloir dire déjà rembourser le mariage. Ça peut vouloir dire rembourser la peine. Eh oui, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. On peut dire aussi rembourser le tort causé. Quand j'ai le tort causé, ça veut dire le fait que maintenant je vais avoir du mal à me remarier. Eh oui, un homme qui a été divorcé, c'est plus difficile à remarier. Tout ça, ça se monnaie. Ouais. D'accord? Très bien. Donc, préjudice moral, comme ça on appelle ça? Donc, Eina Mekudesh, Vechen Katan Shekudesh. C'est valable aussi pour un enfant qui a fait un mariage. Ça veut dire comme ça, un enfant, un mineur, qui a 12 ans par exemple, il va se marier avec une femme. Donc il va lui donner une bague et tout, il dit voilà, arrête Mekudesh. Est-ce que son mariage est bon? Son mariage n'est pas bon. Maintenant, ils attendent quelques années, mais dans sa tête, dans la tête de l'enfant, sa femme, elle est consacrée, c'est fini, c'est sa femme maintenant. Très bien. Il arrive à 15-16 ans et il lui envoie un très beau cadeau, un collier, mais 3000 euros, d'accord? Plus que Shavevruta. Et après, du coup, quelques années plus tard, il va chez un rav et le rav lui dit, mais à quel âge vous êtes marié? Il dit, ah, nous on est mariés depuis 11 ans, nous, c'est une vieille histoire d'amour. Qu'est-ce qu'il leur dira le rav? Le rav lui dit, votre mariage n'a jamais démarré. Pourquoi votre mariage n'a jamais démarré? Parce que même si après vous avez envoyé des cadeaux, mais les cadeaux n'étaient pas là pour faire le mariage dans votre tête c'était déjà fait. Donc même si vous envoyez des cadeaux, les cadeaux n'étaient pas là pour ça. Le cadeau, c'est simplement pour consolider une relation qui est déjà faite. D'accord? C'est pour ça que, dans ce cas-là, le mariage n'a jamais démarré. Même s'il a été confirmé par des cadeaux par la suite. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est pour ça que dans les mariages aujourd'hui, vous voyez qu'à chaque fois le rabbin pose la question, il dit, est-ce que la bague vaut bien, je sais pas comment il dit ça en français, est-ce que la bague vaut bien une certaine valeur, et est-ce que c'est de votre propre argent? Il pose toutes ces questions, même si ça paraît des fois un peu bébête, hein, parce que on voit, il a acheté un collier, etc. Eh ben non. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que tout se joue avec la phrase que le mari va dire. Quand il dit, tu m'es fiancé avec ça, si dans ce qu'il a donné maintenant, il n'y avait pas assez pour marier, le mariage ne va pas démarrer. D'accord? Ça, c'est pour la Mishnah.
D'ailleurs, on n'est pas obligé d'offrir une alliance, on peut offrir n'importe quel bijou.
Ah oui, oui, bien sûr. Ouais.
C'est malheureux que tous les gens pensent qu'il faut que ce soit l'alliance.
Non, c'est pas malheureux, c'est Al-Pi-Kabbalah. Al-Pi-Kabbalah. Bon.
Il demande, le rabbin, il demande.
Donc Al-Pi-Kabbalah. Il y en a qui pensent que c'est un minac qu'on a pris d'égoïne. C'est un minac de la bague. Mais aujourd'hui, la majorité s'accorde pour dire que c'est en vérité un minac qui est vieux comme le temps, c'est Al-Pi-Kabbalah.
C'est le fait que quand on
dit que le mari il va prendre la bague, il va entourer la femme.
Parce qu'elle va se
dire. Non, pas du tout. Dans la constitution de la création du monde, on dit que le mari va entourer la femme. Et c'est écrit que quand ma chère va venir, c'est la femme qui va entourer le mari. C'est un processus dans la Kabbalah. On dit que le mari, c'est lui qui couvre sa femme. Il y a le Pi-Kabbalah, quand on met la bague, il y a des choses qui se passent.
Attends, si on met un bracelet, on recouvre aussi.
Il y a une importance sur le doigt aussi qu'on choisit, c'est pas rien.
C'est
oui.
Les Ashkenazim, ça.
Maintenant, oui. C'est vrai que.
C'est les sphères et
les. Oshaya, il dit Vera Sirli Loalam. C'est vrai.
Oui, non, c'est. C'est le Pi-Kabbalah, c'est le Pi-Kabbalah, c'est sûr ça.
Depuis quand ça.
Comme il dit, chez les Ashkenazim, on a le Minak.
C'est la création du monde.
Chez les Ashkenazim, c'est la Kala qui tourne autour du Khatan. Et après, le Khatan, après que la Kala tourne autour du Khatan. C'est le Khatan qui va mettre autour de la canne. C'est les Sphirot, d'accord. Bon. Mais encore une fois, Alpi Alakha, comme M. Bismuth a dit, vous avez raison, même s'il a donné un autre, même s'il a donné une pièce de. Je sais pas, une pièce d'un franc, c'était suffisant. Hein, bon.
Donc mineur.
Où?
Je sais pas, il faut que ce soit un bijou, forcément. Non,
non, non, non, non, pas du tout.
Ah, une valeur.
Il faut que c'est une valeur de 15 centimes d'euros. Pas cher.
Donc mineur, il n'était pas bar mitzvah, il s'est marié.
À ce prix-là, on peut prendre deux pour le prix d'une. Hein.
Il a dit arrête mes couilles de chez-ci, il a donné un bijou, un machin, un truc.
Ah, mais il était mineur.
Il a 12 ans. Il a dit rendez-vous dans 2 ans.
Il n'est pas bar mitzvah.
Il n'est pas bar mitzvah. Ouais.
Deux fois plus de traquage.
Il est précoce.
Donc, Amekadesh, Isha Uvita. Je finis avec la Mishnah Zayin.
Attends, tu arrives à la synagogue avec un courrier au lieu d'une bague. Parce que c'est arrivé qu'on oublie le.
L'émotion.
Qu'on oublie l'alliance.
Oui.
Alors si tu es avec un on trouve un bracelet.
Halakhiquement parlant, c'est bon.
C'est bon. Mais le rabbin, ils sont pas.
C'est bon. Dans les faits, on a l'habitude. Non, c'est pas qu'ils sont pas formés. C'est dans les faits, on a l'habitude de faire avec une bague. Donc je fais une bague. C'est comme ça. Même si le mari dit, moi je vais faire la surprise, je vais offrir autre chose. On a l'habitude de faire avec ça. Il faut faire selon l'habitude. Il faut pas non plus. Ouais. Mais halakhiquement parlant, il n'y a pas de problème. On pourra offrir autre chose.
Je vais y aller, c'est juste pour le.
Ouais. Alors, on a fait ça pour le mérite de Mordechai Ben Sabrina, pour le mérite et la refoua Shelema de Lionel Mordechai, donc Mordechai tout court, Ben Sabrina Alouche. Très bien. Voilà, Khazak. Bon, on va s'arrêter ici parce qu'il est déjà 1000. On continuera jeudi, mes attachés.
Je crois que ça.